Saison 1, mettre le monde en équation. Épisode 4, avec l'ordinateur, le mariage technoscientifique du siècle.
Un soir de décembre 1947, sur la côte est des États-Unis, Claude Shannon écrit une lettre à un proche. Il est l'un des très rares à avoir eu le droit de voir l'étrange dispositif mis au point par ses collègues des Bell Labs, John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley. Un savant assemblage de métaux bien choisis qui permet d'amplifier ou d'atténuer un signal électrique.
Je considère cela comme très certainement l'invention la plus importante des 50 dernières années.
Shannon n'est pas homme à parler à la légère. À 31 ans, c'est l'ingénieur vedette des Bell Labs, le laboratoire de recherche de AT&T, la plus grande entreprise de téléphonie au monde. Peut-être devrais-je dire tout simplement la plus grande entreprise du monde. Mathématicien autant qu'ingénieur, joueur, jongleur avec les balles comme avec les idées, Shannon publiera dans quelques mois l'ouvrage légendaire qui fondera la théorie de l'information, la théorie des échanges et du codage. Et ce qu'il a eu le privilège de contempler ce jour-là, c'est l'objet technologique le plus emblématique du XXe siècle, le transistor. La brique de base de toute la révolution informatique. Bill Gates dira un jour
« Si je pouvais voyager dans le temps, ma première étape ce serait d'aller en décembre 47 au Bell Labs. »
Car dans le petit dispositif conçu par les ingénieurs, il y a en germe une toute nouvelle génération de machines à calculer. Comme les équations différentielles, c'est un rêve qui remonte au XVIIe siècle. À l'origine de ce rêve, il y a un singulier génie. Le philosophe français Blaise Pascal. Enfin, philosophe. Pascal, c'est en une seule personne un mathématicien, un physicien, un philosophe, un théologien, un polémiste, un moraliste, un écrivain, un entrepreneur. On se rappelle le Pascal des pensées des provinciales, le triangle de Pascal, le Paris de Pascal, le Pascal unité de mesure, de pression. Les plus âgés se souviennent avoir tenu entre leurs doigts le Pascal, le gros billet de 500 francs que Gainsbourg brûla un jour à la télévision. Et avec son talent inégalé à coudre ensemble les concepts étrangers, Pascal a aussi initié le calcul des probabilités, et même des martingales, base de la finance mathématique. C'est un homme universel, perspicace, amoureux de la polémique et des contre-pieds, refusant le primat de l'esprit sur le cœur. Les philosophes des Lumières le tiendront pour fou. Tout cela ferait déjà un portrait d'exception, mais nous sommes encore loin du compte, car Pascal, c'est aussi, tenez-vous bien, le premier entrepreneur de la tech, le lointain précurseur de Bill Gates. C'est en 1642 que le jeune Blaise Pascal, 19 ans à peine, se lance dans l'aventure, la première machine à calculer commerciale. Durant 10 ans, il s'y acharnera, baratineur promettant à qui veut l'entendre que son invention va changer leur vie, traquant impitoyablement les tentatives de concurrence. Mais au-delà du baratin, un bijou, la pascaline, machine à additionner et soustraire. Des générations d'inventeurs perfectionneront après lui la science des machines mathématiques. Ainsi, Gottfried Leibniz, que nous avons déjà rencontré en rival de Newton, lui développe la première machine à multiplier et les bases de l'informatique, calcul binaire, logique. Ainsi Jacquard, qui à Lyon invente le métier à tisser programmable. Ainsi Ada Lovelace, mère du premier langage de programmation. Et des dizaines d'autres, qui pendant 3 siècles améliorèrent les concepts comme les technologies mécaniques puis électriques. Durant la Seconde Guerre mondiale, des calculateurs automatiques ont été cruciaux pour permettre à Alan Turing et ses collègues de craquer le code secret de la redoutable machine Enigma. Et voilà que nous pouvons renouer le fil avec l'époque de Claude Shannon. Dans sa thèse, Shannon a montré qu'une machine calculante n'est rien d'autre que la traduction en circuits mécaniques ou électriques d'un énoncé mathématique. Et il a l'imagination qu'il faut pour voir tout le potentiel des transistors pour mettre en œuvre des énoncés mathématiques d'une complexité inespérée.
Il en faut de l'imagination.
Il y a quelques petites années, dans ce qui était sans doute l'étude de marché la plus foirée de tous les temps, IBM avait estimé qu'il y avait un marché mondial pour 4 à 5 ordinateurs. Mais Shannon, lui, ne manque pas d'imagination. Et pressent que le transistor, c'est l'aube d'une révolution de société. Pendant un demi-siècle, la puissance des ordinateurs va quasiment doubler tous les ans ou tous les deux ans. Du jamais vu dans l'histoire des technologies. Pour l'instant, Shannon joue avec l'ordinateur comme personne, gagnant haut la main sa place sur le podium tutélaire de l'informatique avec Alan Turing et Janos von Neumann. Au sein de cette trinité imposante, Shannon est la figure lumineuse, le seul à ne pas se brûler les ailes dans la guerre et à connaître un plein succès d'estime et de carrière. Il se distrait avec ses inventions loufoques, comme la fameuse « machine ultime », qui, dès qu'elle est en marche, actionne un bras articulé pour s'éteindre elle-même. Ou ces souris mécaniques qui retrouvent leur chemin dans un labyrinthe, précurseur de l'intelligence artificielle. Ou encore ces micro-ordinateurs avec lesquels lui et ses compères hantent les casinos pour tricher, tâchant de prédire en temps presque réel la zone de la roulette où la boule va s'arrêter. Et bien sûr, il va appliquer les ordinateurs à la résolution des équations différentielles. Les calculs sont gigantesques et les solutions ne sont quasiment jamais des expressions exactes. Voilà deux excellentes raisons de mécaniser la résolution de ces équations. On ne pourra jamais calculer la solution exacte, alors on triche un petit peu en calculant des solutions approchées, un centième, un millième, un millionième selon les cas. Le tout est de tricher selon les règles de l'art. Par exemple, en remplaçant la dérivée, valeur limite inaccessible, par un taux d'accroissement sur une très petite durée. Soit une équation selon laquelle la dérivée de x vaut, je ne sais pas, exponentielle de cosinus x. Alors je peux découper l'intervalle de temps complet en 100 petits sous-intervalles égaux. Et sur chacun de ces sous-intervalles, demander que le taux d'accroissement de la fonction calculée soit égal à exponentielle de cosinus x, en prenant pour x la valeur au début du sous-intervalle. Cette méthode s'appelle le schéma d'Euler explicite, et c'est la plus simple des centaines de méthodes et sous-méthodes mises au point pour faire calculer aux ordinateurs des solutions bien approchées. Ce nouveau domaine, appelé analyse numérique des équations différentielles, c'est un monde en soi, peuplé de concepts aux noms mystérieux. Schéma de Runge-Kutta, méthode spectrale, approximation symplectique, etc. Le mariage des équations différentielles avec les ordinateurs électroniques, c'est un fait historique et même géopolitique. Un mariage heureux qui produira de nombreux enfants célèbres. Par exemple, le 21 juillet 1969, le monde entier retient son souffle quand Armstrong marche sur la Lune. Encore aujourd'hui, l'une des grandes fiertés des États-Unis.
Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité.
Même si, fait peu avouable, l'un des piliers de ce programme était les experts allemands en balistique recrutés parmi les anciens conseillers du Troisième Reich. Mais surtout, derrière l'exploit, il y avait aussi la résolution informatique des équations de Newton. Sans ordinateur et sans équations différentielles, il n'y avait ni fusée, ni petit pas, ni gloire. Et d'ailleurs, ce petit pas glorieux n'aurait pas été possible sans les experts, et surtout les expertes, en maniement des calculateurs électroniques. Héritière des femmes qui jadis calculaient à la chaîne, dans d'immenses bâtiments sur des machines mécaniques, cette nouvelle génération de femmes ingénieures est entrée dans l'histoire. Un film leur a été consacré, les figures de l'ombre. Katherine Johnson était l'une de ces figures, née en 1918 dans l'Amérique de la ségrégation raciale, surdouée en mathématiques, elle a 20 ans quand elle entre à l'université de Virginie-Occidentale. Ils ne sont alors que 3 étudiants afro-américains dans toute la Virginie à être admis. Et c'est la seule femme. En 1953, elle est recrutée par la NASA dans un groupe de femmes calculatrices qu'elle surnomme les ordinateurs avec des jupes. La sûreté de ses calculs, son aisance en géométrie analytique, lui permettent de gravir les échelons, assister à maintes réunions techniques qui n'avaient jamais vu la moindre femme. Enfin, les astronautes des débuts demandent, pour leur sûreté, que Katherine Johnson vérifie elle-même les calculs des premiers ordinateurs. Et quand Neil Armstrong fait son pas en pleine lumière, elle l'a assisté dans l'ombre. Et ce n'est que 46 ans plus tard qu'une médaille prestigieuse remise par le président des États-Unis la récompensera. Récompensant aussi au passage le mariage des équations différentielles et des ordinateurs. Voici une autre histoire qui fait grand bruit. Le 3 mars 1972, les experts en économie sont fous de rage en découvrant les conclusions d'un couple de mathématiciens travaillant pour le MIT, Dennis et Donella Meadows. Leur rapport sur les limites de la croissance montre que si l'humanité poursuit sa route sur le chemin de la croissance avec les méthodes contemporaines, un effondrement se produira à un moment ou à un autre dans la première moitié du XXIe siècle. On accuse les Meadows d'obscurantisme, de biais méthodologiques. Peu importe, leur rapport grand public devient un ouvrage culte. Mais bien peu de monde sait que derrière les prédictions, il y a la résolution par les plus puissants ordinateurs de l'époque d'un système titanesque de 149 équations différentielles interdépendantes. Encore un enfant du mariage du siècle. Le 16 mars 1989, l'astronome français Jacques Lascar publie un article coup de théâtre qui vient relancer le vieux problème de Newton sur la stabilité du système solaire. Alors que les astronomes ont abandonné la belle théorie d'instabilité de Poincaré pour une théorie de stabilité encore plus attrayante, Lascar décide de résoudre les mouvements du système solaire avec une précision jamais imaginée jusqu'alors. L'équation qu'il obtient à partir de Newton, c'est un monstre de 150 000 termes couvrant 800 pages. Ouais, 800 pages juste pour écrire l'équation. Une vie humaine ne suffirait pas à tenter de dessiner la solution. Mais le mariage du siècle y parvient et démontre, à la surprise générale, que l'instabilité est possible, comme Poincaré l'avait deviné. Et l'effet papillon a bien lieu dans le système solaire. Il suffit d'une fluctuation de quelques centimètres entre deux astéroïdes, quelque part entre Mars et Jupiter, pour faire varier la probabilité de collision de la Terre avec Vénus quelques centaines de millions d'années plus tard. Et cependant, cette probabilité reste petite, environ 1% pour les 5 prochains milliards d'années. Autrement dit, le système solaire, s'il n'est pas stable, a quand même peu de chances de courir à sa perte. Il faudra encore 30 ans de recherche à Lascar pour trouver la raison de cette quasi-stabilité relative. De Newton à Lascar, sur 3 siècles et demi, la stabilité du système solaire tisse un fil invisible entre les générations d'astronomes. Et il y en a tant d'autres des enfants du mariage du siècle. Prédiction quotidienne de la météo, calcul de cours de la bourse, images de synthèse, de tornades ou de tsunamis, prisés des studios hollywoodiens qui sont, l'auriez-vous cru, parmi les plus gros consommateurs d'équations différentielles au monde. Détection, dans une masse inhumaine de données, des signatures des ondes gravitationnelles, reconnues grâce aux équations différentielles des collisions de trous noirs. Ou encore les rapports du GIEC, qui ont montré, en simulant les équations, que nous sommes pleinement responsables du réchauffement climatique aujourd'hui à l'œuvre. Après ce petit tour d'horizon, je réalise encore mieux moi-même à quel point mon parcours est encastré dans ce grand édifice débuté au XVIIe siècle. Les résultats que je décortique avec mes étudiants de l'Université Lyon 1 modélisent la propagation des épidémies ou des influx nerveux, la croissance des tumeurs ou des rumeurs, la stabilité des gaz et des plasmas, la gestion soutenable des pêcheries ou des champs de betteraves. Mais même avec les meilleurs ordinateurs, rien, absolument rien de tout cela n'aurait été possible sans les générations de pionniers, visionnaires ou sceptiques, virtuoses ou tâcherons, qui ont forgé et développé la technologie de pointe dans le monde des idées que constituent les équations différentielles. Des équations faites pour calculer et prédire le monde sans le désenchanter pour autant. D'abord parce que les phénomènes ainsi couverts ne représentent toujours qu'une petite partie de ce qui habite l'univers. Mais aussi parce que cet édifice scientifique, si complexe, subtil, fragile, recèle tant de pépites et joyaux. Ces pépites, elles sont aussi accessibles à quiconque prendra le temps de se promener, même en amateur curieux, dans cette œuvre scientifique qui est en fait une œuvre poétique à part entière.
C'était les contes des mille et une sciences. Saison 1, Mettre le monde en équation. Un podcast de Cédric Villani. Réalisation, Véronique Samouilov. Chargé de programme, Thomas Biassi et Élodie Piel. À la technique, Manon Houssin et Sébastien Royer. Lecture, Daniel Königsberg. Un podcast France Culture en 4 épisodes à retrouver sur l'appli et le site de Radio France.